Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pour Franck Ferrand, comme pour beaucoup d'animateurs de la station, le moment est venu de la dernière émission en direct de la saison. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. À partir de lundi, en effet, et jusqu'au 23 août, vous pourrez retrouver les meilleurs numéros de cette saison, non seulement toute la semaine, j'allais dire comme d'habitude, mais aussi le samedi et le dimanche. Cet été 2015 sera donc celui du 7 jours sur 7 pour Au cœur de l'histoire. Alors, bien souvent, aux alentours de 15h, je suis un petit peu pris par le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aimerais commencer ce dernier direct par un grand merci à toute l'équipe qui, chaque jour, se cache un peu dans mon ombre. D'abord à Jean-François Bussière, qui réalise Au cœur de l'histoire et qui a préparé pour vous toutes les rediffusions de cet été. C'est un énorme travail, avec la complicité de Benoît Valentin pour les musiques, à Lorena Martin, bien sûr, et à Christophe Dard, que nous retrouverons à la rentrée. Et puis, un merci tout particulier à Marion Sauveur, qui va bientôt voguer vers de nouveaux horizons. C'est notamment grâce à Marion que vous avez pu communiquer avec nous via Twitter et Facebook, et j'espère que vous continuerez à le faire du reste. Et puis à Mathilde Salé-Chou, Mathilde qui nous aura accompagnés depuis plus d'un an. Elle a notamment préparé les fameux retours aux origines que vous appréciez tant en fin d'émission. Merci, j'allais dire à tout le monde, à tous les stagiaires qui nous ont rejoints cette année, et notamment Léo Siegel, qui est quasiment devenu un membre à part entière de cette équipe. Merci à Bertrand Rutili et Nadia Milosevic pour leur soutien quotidien. Enfin, merci à vous, cher Ombline, pour votre implication de tous les instants.
Merci à vous Franck pour cette belle émission. Et en ce début de vacances, eh bien vous nous parlez d'une région où il fait bon se promener et rêver.
C'est ce que pensent nos auditeurs et nos auditrices, si j'en crois l'extraordinaire efflorescence de compliments et d'enthousiasme qui nous est arrivée par les réseaux sociaux dans la préparation de cette émission. Alors nous allons effectivement baguenauder en Bourgogne cet après-midi, en compagnie de l'auteur du dictionnaire amoureux de la Bourgogne, Jean-Robert Pitt, qui est un de nos grands géographes. Je vais en profiter dans un premier temps pour vous parler de Cluny, le Cluny de la grande époque.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Lionel sur l'origine de l'expression « être médusé ».
C'est un peu ce qu'on ressent devant quelques-unes des grandes merveilles de Bourgogne.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Le bourg de Cluny, nous dit Jean-Robert Pitt, chef-lieu de canton de son état, somnole doucement dans son vert vallon en écoutant passer au large les TGV Paris-Lyon Méditerranée qui vrombissent un peu trop souvent à son gré. Il jouit néanmoins d'une célébrité mondiale, démesurée par rapport à sa population, qui demeure stable à moins de 5000 habitants depuis le 19e siècle. Plus de 100 000 touristes viennent y admirer chaque année les vestiges de ce qui fut, jusqu'à la reconstruction de Saint-Pierre de Rome, commencée en 1506, le plus grand édifice religieux de l'Occident médiéval, témoin d'une aventure spirituelle qui a profondément marqué l'Europe et contribué à faire de ce continent un foyer majeur de civilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans ce bourg tellement harmonieux, j'allais dire tout simplement tellement bourguignon de Cluny, on est frappé par l'incroyable démesure de l'édifice, plutôt de ce qui reste évidemment des vestiges de cette incroyable abbatiale qui a régné littéralement sur le monde occidental. Elle est aujourd'hui détruite en grande partie, de même que la cité du reste, hein, qui a beaucoup décru. On considère que moins de 10% des constructions médiévales sont encore debout, et encore la plupart ont été remaniées considérablement au fil des siècles, et notamment au 19e siècle. Donc 5000 habitants environ aujourd'hui, 100 000 touristes. Voyez l'attrait touristique considérable de cette ville et plus spécifiquement de son abbatiale. Je vais vous parler de l'abbaye de Cluny dans un instant. Je tenais simplement à vous signaler que dans le cadre du concours « Sauvons nos trésors », qui est lancé par France 2 dans le cadre des Journées du patrimoine à la rentrée, j'ai accepté de parrainer la Maison des Dragons, qui est une des demeures médiévales. On est une demeure 13-14e siècle, hein, tout à fait extraordinaire du reste, très emblématique et très intéressante pour les fouilles qu'on y mène en ce moment même. J'ai accepté donc de parrainer cette Maison des Dragons en espérant qu'elle retrouve tout l'éclat, toutes les couleurs qui étaient celles du Moyen-Âge, car il faut imaginer au Moyen-Âge cette ville de Cluny, autour de son abbatiale mère en quelque sorte, comme la plus grande concentration de beaux édifices civils du Moyen-Âge. On avait fin 12e, au 13e, encore au 14e siècle, des demeures de 3-4 étages avec leurs claires-voies extraordinaires, vous savez, leurs arcs en plein cintre, et partout des fresques, partout des couleurs, des décors. C'était une ville d'une richesse, c'était un habitat d'une somptuosité assez extraordinaire pour l'époque. Il y a donc eu ici, à Cluny, ce qu'on peut appeler un véritable foyer de civilisation. C'est en septembre 909 que le duc d'Aquitaine, Guillaume Ier, Guillaume le Pieux, avait fait don du domaine, on appelait ça la villa au sens encore gallo-romain du terme, du domaine de Cluny en Mâconnais à l'abbé Bernon. On est dans la vallée de la Grône, hein, qui est un affluent de la Saône. Il faut imaginer les collines verdoyantes de ce gras pays. Un endroit relativement isolé est situé cependant sur la route qui relie la Méditerranée à la mer du Nord. On est au cœur même de ce seuil de Bourgogne qui, sur un plan stratégique et économique, a été tout à fait essentiel. Donc, c'est l'abbé Bernon qui est aux affaires. Il était né dans les années 860, il venait d'une famille importante, de rang comtal, et déjà avait occupé de hautes fonctions monastiques puisqu'il avait fondé les monastères de Gigny et de Baume-les-Messieurs dans le Jura, chose merveilleuse par ailleurs. Bon. Il va s'installer là avec 12 moines au lieu dit Cluniacus, c'est-à-dire qu'on est à l'origine là de Cluny, bien entendu. Le duc souhaite placer son nouveau monastère sous la protection des saints Pierre et Paul et sous l'autorité directe du pape. « Je vous supplie donc, ô saints apôtres et glorieux princes de la terre, Pierre et Paul, avait écrit dans sa lettre patente Guillaume d'Aquitaine, soyez les tuteurs et les défenseurs de ce lieu de Cluny et des serviteurs de Dieu qui y demeure. » Les moines devront, évidemment, à Cluny, suivre la règle de saint Benoît, basée sur les vertus de foi, d'espérance, de charité. J'ai eu l'occasion de vous parler de ça assez souvent, avec une petite entorse à la règle de saint Benoît, puisque, quand je dis petite, essentielle même, puisque à Cluny, les moines seront exempts de travaux manuels. Ce sont des moines converts et des laïcs qui se chargeront des travaux manuels pour laisser aux moines de Cluny la faculté de se livrer totalement à la spiritualité. Une autre obligation, ils doivent prier pour le salut du duc et de sa descendance. La richesse d'un homme est la rançon de son âme, avait écrit Guillaume d'Aquitaine. Aussi moi, Guillaume, comte et duc, par le don de Dieu, j'ai médité attentivement sur ces choses et désireux de pourvoir à mon salut pendant qu'il en est temps, j'ai pensé qu'il était sage, voire nécessaire, de mettre au profit de mon âme une petite partie des biens temporels qui m'ont été accordés. Oh, il avait sans doute des choses à se reprocher, ce duc Guillaume.
Sur Europe 1, un extrait de Carmina Burana de Karl Orff. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la cité de Cluny au Moyen-Âge.
Comprenez bien que ces moines de Cluny sont indépendants, ils sont totalement indépendants. L'abbé Bernon hein, sera le seul abbé à être nommé. Guillaume d'Aquitaine a voulu que les moines soient, je le cite, « soustraits à toute domination temporelle, qu'elle vienne de nous, de nos parents ou même du roi ». On est en train de créer une nouvelle forme de monachisme, d'une sorte de monarchie monacale en quelque sorte, avec, ne l'oublions pas, très peu d'impôts pour les moines eux-mêmes, qui doivent s'acquitter simplement d'un impôt au pape. En revanche, à travers tous les prieurés qui peu à peu vont être fondés au nom de l'abbaye, la perception d'un sens qui, évidemment, va faire de Cluny une affaire. En tout cas, une abbaye extrêmement riche et de plus en plus riche. Alors, il y a eu 3 abbayes, on connaît ça, hein, Cluny 1, Cluny 2, Cluny 3. En 927, c'est la première abbatiale, Saint-Pierre-le-Vieux. Elle est donc achevée au premier tiers du Xe siècle. L'abbé Bernon n'a pas eu la chance de voir cette bâtisse terminée puisqu'il est mort juste au moment où on allait l'inaugurer. Il faut attendre 967 d'ailleurs pour que l'évêque de Mâcon vienne la consacrer. Et déjà, on se rend compte qu'on l'a bâtie trop étroite. La place commence à manquer, non seulement du fait de la présence des moines, mais surtout des pèlerins qui vont se faire de plus en plus nombreux. Alors on décide dans la foulée, en 981, de bâtir Cluny II, qui sera achevé sous l'autorité de Saint-Mailleul. Alors là, on est déjà dans un style roman classique, paré de fresques magnifiques. Et puis arrive en 1080... une nouvelle abbatiale, en tout cas en 1080, on commence à la bâtir, ce sera Cluny III, c'est en tout cas le nom que lui donnent les spécialistes et les archéologues. Alors, la précédente était un petit peu, encore une fois, trop petite, trop étroite. Cette fois, on va faire quelque chose d'immense, un édifice grandiose qui va bientôt offrir des proportions jusqu'ici inégalées, 187 mètres entre le portail occidental et l'abside, des voûtes qui s'élèvent à 30 mètres de hauteur. Encore une fois, on est au tournant du XIIe siècle. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Cette abbatiale compte 3 chapelles, autant de clochers. La nef se compose elle-même de 5 vaisseaux et fait rare à l'époque. C'est une abbatiale extrêmement lumineuse puisqu'elle a été ouverte d'extraordinaires verrières qui permettent donc de faire entrer la lumière à flot dans cette vaste abbatiale. Le monastère est très soutenu, il faut le savoir. Les papes successifs vont constamment multiplier les privilèges de Cluny, qui se verra bientôt accorder le droit de battre monnaie. L'abbé prend le titre d'archi-abbé. De nombreux monastères dans la foulée vont voir le jour, qui sont incorporés à cette église clunisienne. D'anciennes abbayes vont d'ailleurs se rattacher au mouvement clunisien. Bref, Cluny devient une congrégation et en 2 siècles, les possessions vont se multiplier à travers non seulement toute la France, mais jusqu'en Angleterre, en Allemagne et même en Pologne, en Italie, en Espagne, etc. L'abbé de Cluny devient, vous l'imaginez, une sorte de roi spirituel, si je puis dire. Il s'arroge progressivement l'autorité judiciaire, qui était l'autorité seigneuriale, voire royale en dernière instance. Donc on est en présence d'un très grand pouvoir. En 994, pour la première fois, on qualifie Cluny de monastère, bourg et place forte. Ça, c'est intéressant pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, évidemment, autour du monastère lui-même, sont en train de se développer des structures civiles. On voit croître une petite ville qui bientôt d'ailleurs va devenir une véritable ville. Alors vous savez que les moines, encore une fois, n'accomplissent pas à Cluny de travail manuel. Et ça va forcément favoriser le développement de la ville. Le vaste domaine agricole étant exploité par des laïcs, ces laïcs, il faut les loger, il faut leur offrir tout ce que peut offrir une ville, bien entendu. Il faut les nourrir, les vêtir, etc. On voit Cluny devenir un véritable nœud urbain très prospère, bénéficiant directement de l'incroyable rayonnement du monastère. Et c'est dans ce contexte-là que vont naître les fameuses demeures richement sculptées, incroyablement ornées de superbes fresques aux vives couleurs, cette Cluny civile dont je vous parlais au tout début de l'émission.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur d'un des hauts lieux du renouveau spirituel au Moyen-Âge, où se pressaient également penseurs, écrivains, théologiens et poètes. Vous nous parlez, Franck Ferrand, de Cluny, en Bourgogne.
On peut dire que l'apogée de Cluny se situe sous l'abbatiat duc de Semur. À cette époque-là, on compte quand même plus de 1200 prieurés et abbayes qui sont rattachés directement à Cluny. Vous imaginez l'extraordinaire manteau de prieurés de cet ordre clunisien. D'ailleurs, un ancien prieur de l'ordre, Eudes de Châtillon, va devenir pape sous le nom d'Urbain II. Le dernier grand abbé, ce sera Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable, c'est les années 1150. Et à ce moment-là, on peut dire que déjà, l'ordre commence à être remis en cause. On débat des revenus touchés par les moines. On critique le laxisme qu'il manifeste dans l'application de la fameuse et dure règle de Saint-Benoît. On leur reproche un certain rapprochement avec le pouvoir temporel. N'oubliez pas que on est en train de voir émerger de nouveaux ordres plus austères. En attendant les ordres mendiants, vous avez déjà l'ordre de Cîteaux, on va appeler les cisterciens, la Grande Chartreuse, Fontevraud, des ordres qui prônent l'ascétisme, le retour au travail manuel. Bernard de Clairvaux, qui est le maître spirituel de l'ordre cistercien dont nous parlions l'autre jour, ici même avec Bertrand de Fédot, ne va pas hésiter à fustiger le manque de rigueur de ses rivaux clunisiens. Et finalement, on va voir cet ordre de Cluny se mettre à douter de lui-même, se replier peu à peu sur le domaine de la France et tomber assez vite, à la fin du XIIIe siècle, à tomber sous la tutelle royale, avec une véritable perte d'indépendance. Le pape va s'octroyer désormais le pouvoir de nommer lui-même les abbés. Et c'est terrible de voir à quel point Cluny devient un enjeu entre la monarchie française et la papauté, finalement, et n'est plus le grand pouvoir souverain qu'il avait pu représenter, ne serait-ce qu'un siècle plus tôt. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas dans les siècles à venir encore quelques abbés prestigieux. Vous savez que, notamment à partir du règne de François Ier du Concordat de 1518, on va se mettre à nommer des abbés commendataires qui sont en quelque sorte des tenants de bénéfices, disons les choses. Alors on aura des gens comme Jean de Bourbon, le cardinal de Richelieu lui-même, c'est lui qui introduit la réforme de Saint-Maur qui prône le retour à la rigueur et à une règle beaucoup plus stricte. Le cardinal de Mazarin, le prince de Condé, enfin je n'en finirai pas de citer tous ceux qui vont devenir abbés de Cluny, mais ça n'est plus, disons-le, Cluny n'est plus que l'ombre d'elle-même, et c'est la Révolution qui va signer l'arrêt de mort de cet extraordinaire monastère et de tout l'ordre qui s'était réuni dans son ombre. En 1788, on voit triompher la réforme de Richelieu avec ce qu'on appelle l'étroite observance. On va également lancer un vaste programme de rénovation pour rétablir la gloire de l'ordre. Ça, c'est 1788. Il est grand temps. Et même, soyons honnêtes, il est trop tard. Le 13 février 1790, vous savez que les communautés religieuses sont dissoutes. Alors, certains moines vont être poursuivis, certains sont emprisonnés. Il y en a qui sont déportés jusqu'à l'île de Ré. 6 des moines de Cluny, des tout derniers moines, seront même guillotinés. La municipalité, par tous les moyens, va tenter, et on a vu ce cas se reproduire dans de nombreux endroits en France, va tenter de s'opposer à la destruction de l'abbatiale. 12 moines célèbrent leur dernière messe dans l'abbaye le 25 octobre 1791. Après quoi, bien, cet immense abbatial qui avait régné sur l'Occident n'est plus qu'une sorte de coquille vide. Tout a été saisi, revendu, bradé. En 1793, l'abbaye n'est quasiment plus rien. On commence d'ailleurs à procéder au démantèlement de l'édifice. Alors dans un premier temps, vous savez qu'on va bûcher les insignes de monarchie, les insignes de religion, etc. Les grilles du chœur sont démontées, on fait tomber les vitraux, etc. Les archives sont pillées dans des conditions épouvantables. On va jusqu'à démonter les cloches pour récupérer le métal, évidemment, et la toiture, une partie de la toiture. On pille les statues du portail. Tout ça est assez épouvantable. L'église n'est bientôt plus, au tournant des années 1797-98, n'est plus qu'une sorte de grand squelette de pierre qui sera vendu à un marchand de Mâcon pour être transformé en carrière. Et cette espèce de carnage va se perpétuer jusqu'en 1823, ce qui explique qu'on ne retrouve plus aujourd'hui quasiment que des ruines à Cluny. Vous savez que quand vous êtes à Cluny aujourd'hui, vous avez cette nef ou ce qu'il en reste, les vestiges, traversés par une rue. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer ce qu'avait pu être la première église de la chrétienté, vous imaginez, et le centre d'un monastère qui avait régné sur l'ensemble de l'Occident. Bonjour Jean-Robert Pitt.
Bonjour.
Ce n'est pas seulement de Cluny que nous allons parler avec vous, mais de toute cette Bourgogne que vous faites chanter dans votre dictionnaire amoureux.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, c'était un extrait de la chanson « En ce temps, la rivière ». On écoutait donc Gaston Rivière. La ville de Cluny et la Bourgogne sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le géographe et membre de l'Institut Jean-Robert Pitt, auteur du dictionnaire amoureux de la Bourgogne qui vient de paraître chez Plon.
Alors Jean-Robert Pitt, il y a énormément de merveilles en Bourgogne et de trésors. Vous l'aimez cette Bourgogne, ça transparaît à chaque page de votre dictionnaire amoureux, hein, qui est une véritable déclaration d'amour à cette belle région, il faut le dire.
Oui, peut-être parce que je n'y suis pas né, parce qu'aucun de mes ancêtres...
C'est un pays d'adoption pour vous.
Oui. C'est un pays d'adoption et qui illustre parfaitement ce que je crois être le meilleur côté du droit du sol, qui est une des caractéristiques de l'Empire romain, de la chrétienté et de la France.
Oui, bien sûr. Alors, cette ville de Cluny dont je parlais aujourd'hui, c'est un bourg, disons-le, hein, c'est un gros village. Ça a été un des axes, un des centres même de la chrétienté à l'époque de l'extraordinaire abbaye.
Vous avez très bien décrit ce qu'a été Cluny et le rayonnement spirituel de Cluny, avec quelque chose, si vous me permettez, que j'ajouterais, c'est que Cluny illustre un aspect, enfin du moins une vision du christianisme à laquelle je suis assez attaché, qui est cette idée qu'on pourrait résumer ainsi, rien n'est trop beau pour Dieu.
C'est ça.
Alors que sitôt il illustre...
Tout pour la splendeur.
Donc vous avez parlé de ces maisons civiles de la ville de Cluny qui étaient couvertes de fresques, de couleurs, de sculptures. Ça fait partie de l'esprit clunisien, de ce côté que le baroque, bien plus tard, illustrera, un peu triomphaliste du christianisme, mais qui correspond à une sensibilité qu'on trouve dans toutes les religions, qui existent dans certaines voies de l'islam, dans certaines voies du bouddhisme, de l'hindouisme, et donc qui peut séduire certains esprits. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Donc il y a la demeure cistercienne, celle de Cîteaux, de l'austérité.
C'est l'inverse,
mais qui, moi, je conçois très bien, et qui aujourd'hui séduit, par exemple, beaucoup de chrétiens.
Bien sûr.
Mais il y en a d'autres aussi.
L'ascétisme, la pureté, le dépouillement, en fait.
Voilà, c'est le dépouillement. Cluny, c'est l'opulence. C'est l'opulence, mais pour Dieu. Alors évidemment, il y a toujours la tentation, à un moment, de prendre cette richesse pour soi, d'en profiter, d'en jouir, ce qui n'est pas l'esprit de Cîteaux, encore que Cîteaux, dans les derniers siècles de son histoire, se rapprochera aussi de Cluny par la recherche de la splendeur, et puis les moines arrêteront de travailler aussi.
Vous parliez de droit du sol tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire avec la Bourgogne, c'est que c'est quasiment un sol mouvant. Nous sommes sur un seuil, sur un territoire d'invasion quasi permanente.
Oui, et pourtant c'est une région où il y a une véritable identité, bien qu'elle a été traversée par depuis la plus haute antiquité, puisque ce seuil de Bourgogne a été très vivant, par exemple, pendant la période du bronze, puisque là s'y échangeait à la fois l'étain qui venait des îles britanniques, et puis les richesses qui venaient de la Méditerranée, et beaucoup de ces populations qui étaient installées en Bourgogne étaient extrêmement riches à cette époque. Et puis il y a eu bien sûr ces grandes tribus gauloises, comme celle des Éduins, par exemple, ou des Lingons, qui ont été des tribus très prospères, qui vivaient de ce commerce entre la mer du Nord et la Méditerranée, et les Grecs passaient par là. Quand on voit la splendeur du vase de Vix, par exemple, c'est quand même un objet qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est remonté depuis l'Étrurie, probablement, depuis le milieu de l'Italie, jusque près de Châtillon-sur-Seine, et avec des objets d'un luxe inimaginable, qui montrait la richesse de ces Gaulois qui buvaient du vin avec un grand plaisir, alors qu'ils n'en produisaient pas, mais du vin qui venait de la Méditerranée et qui, compte tenu des conditions de transport de l'époque, montre l'incroyable génie de ces Celtes qui étaient installés dans cette région. Et puis après, il y a eu les invasions germaniques, donc les Burgondes, mais aussi les Francs et bien d'autres peuples.
Posez la question d'ailleurs dans votre dictionnaire amoureux, vous demandez qu'est-ce qu'un bourguignon, et vous dites un bourguignon, c'est un descendant de brachycéphale du néolithique, matinée de Celtes, de Grecs, de Romains, c'est-à-dire venant de nulle part, ou plutôt de partout autour de la Méditerranée, de Burgondes, de Francs, d'un soupçon d'Alamans, de Vandales, de Flamands, sans compter que par mariage, les grandes familles du duché et celles de la bourgeoisie ont fait entrer en Bourgogne des gènes de l'Europe entière, et qu'aujourd'hui nombre de Bourguignons sont issus de lignées enracinées dans toute la France et même sur tous les continents du globe. C'est un extraordinaire creuset, somme toute, cette Bourgogne.
Les Sarrasins, et les Sarrasins sont remontés, ils sont venus à Poitiers, mais ils sont venus aussi par la vallée du Rhône et la vallée de la Saône jusqu'en Bourgogne, et donc il y a un petit peu de sang sarrasin dans les gènes bourguignons.
Est-ce que ces bourguignons ont constitué tôt une espèce à part? Est-ce qu'il y a une culture bourguignonne dans l'Antiquité?
Non, il y a une culture. Par exemple, les Édouins, qui l'une des plus grandes tribus et des plus riches tribus de cette région, dont la capitale était Bibracte, et ensuite après le rattachement donc de la Gaule à Rome, c'est Autun qui a été créé, Augustodunum.
Oui, bien sûr, oui.
Les Édouins étaient un grand peuple, mais il n'y avait pas de fédération des tribus de cette région. Ils étaient même plutôt ennemis, comme toutes les tribus gauloises l'étaient entre elles.
Régulièrement alliés des Romains, d'ailleurs, il faut le dire.
Alors, les Édouins sont le modèle caricaturé par Astérix, vous savez, dans le combat des chefs, où on voit une tribu collabo et une tribu qui, au contraire, résiste.
Oui.
Mais les Édouins étaient loin d'être des collabos. Ils avaient compris les merveilles de la culture romaine et ils ont apporté à Rome aussi tout leur propre génie, et ensuite sont devenus un foyer de rayonnement inimaginable. Donc la Bourgogne, compte tenu de sa position, a été très vite, Vercingétorix a été un résistant un peu malade, voulant absolument à la fois être l'ami de Rome et vouloir garder son indépendance. Tout ça n'est pas très 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 raisonnable, et finalement moi je suis plutôt heureux que la bataille d'Alésia ait été perdue.
Ça, c'est ce qui va faire une grande différence entre nous. Il faut dire que c'est César qui donne à Vercingétorix le titre d'ami de Rome. Il dit qu'il avait été l'ami de Rome.
Il a été, oui, et Vercingétorix espérait que finalement il serait gracié, que César lui ferait un bon sort. Bon, malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui.
Alors, la Bourgogne en tant que telle tire son nom des Burgondes.
Oui.
Il faut le dire. Qui sont ces Burgondes?
Alors,
d'où viennent-ils?
Un petit peuple peu connu, venu de la mer Baltique, qui a traversé toute l'Europe pour arriver jusque-là, qui s'est fixé là, qui a commencé à créer un territoire et puis qui a fédéré des territoires assez vastes, allant pratiquement jusque dans la région d'Avignon et très loin vers le nord et jusqu'aux confins de l'Alsace. Puis après, ça s'est rétréci, puis les Francs sont arrivés. Donc, cette indépendance burgonde a disparu, et il faut attendre le grand-duché d'Occident bien plus tard pour que la Bourgogne devienne réellement un territoire qui a failli devenir le cœur de l'Europe.
Alors là, vous avez prononcé le mot magique, ce grand-duché d'Occident, c'est la nostalgie des Bourguignons d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il précisément ?
Bien, c'est le duché des ducs valois, certes vassaux des rois de France, mais en même temps qui, à un moment donné, surtout à la fin, au moment de l'épopée de Charles le Téméraire, a cru pouvoir conquérir complètement son indépendance et même peut-être renverser la vapeur, c'est-à-dire obtenir que le roi de France devienne le vassal du duc de Bourgogne.
Oui,
ça aurait pu se faire.
C'est un état d'un très grand dynamisme, d'une grande richesse, il faut
bien
le dire,
hein,
qui s'est étendue de façon très importante.
De la mer du Nord jusqu'aux portes de Lyon,
c'est
et
ça, hein,
jusqu'au Jura, donc jusqu'aux frontières de la Suisse d'aujourd'hui et jusqu'à la Loire. Donc c'est un grand état qui vient de la Lotharingie, mais qui préfigure un peu ce que va être l'Europe. Simplement, on a perdu beaucoup de siècles.
Alors, ce grand duché d'Occident, c'est évidemment celui de l'ordre de la Toison d'Or. C'est aussi celui des grands vignobles. Nous y venons tout de suite.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Au cœur de la Bourgogne, cet après-midi avec vous Franck Ferrand et avec votre invité, le géographe et membre de l'Institut Jean-Robert Pitt, auteur du Dictionnaire amoureux de la Bourgogne, paru chez Plon.
J'ai cherché à votre revers, Jean-Robert Pitt, le petit mouton doré qui signale les chevaliers de la Toison d'Or, mais apparemment vous n'êtes pas chevalier de la Toison d'Or.
Non, je ne suis que chevalier de la confrérie du Tas de Mains,
comme
déjà
moi d'ailleurs.
Ce dont je suis extrêmement fier.
Moi aussi.
Mais je n'ai pas la Toison d'Or.
Oui.
D'ailleurs, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est à la fois le roi d'Espagne et les Habsbourg qui délivre la Toison d'Or, c'est un peu compliqué.
Ah oui, mais bon, pourquoi pas, après tout.
Notre président de la République, je crois, a été décoré de la Toison d'Or par le roi d'Espagne.
Ça doit faire partie quasiment des obligations diplomatiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ordre de la Toison d'Or? Expliquons-le en deux mots.
C'est un ordre de chevalerie qui a rayonné sur toute l'Europe, mais qui est, comme tous les ordres de chevalerie, un ordre d'exigence morale, de courage, de beauté, de bravoure, mais rien de plus. Enfin, c'est surtout un ordre qui rattache les membres au duc de Bourgogne et après à ses héritiers. C'est-à-dire donc c'est passé dans, du côté de Charles Quint après la disparition du duché de Bourgogne, oui, après son rattachement à la France.
L'immense prestige de cet ordre et tous les rêves qui y sont attachés, à mon avis, sont directement liés à l'aura qui continue d'entourer l'image du grand-duché de Bourgogne, hein, c'est-à-dire du grand-duché d'Occident. C'est-à-dire que c'est cette Bourgogne médiévale tellement brillante, tellement rayonnante qui lui a donné sa force.
Brillante, et je dirais aussi quelque chose qui me paraît essentiel parce que ça nous manque tellement aujourd'hui en France et en Europe, avec une vision optimiste du monde et de la condition humaine.
C'est ça. Et, très humaniste et très
humaniste et
brillante
et brillante. Voilà. Il suffit d'ailleurs d'aller dans les musées bourguignon ou d'aller de voir les grands monuments bourguignons qui sont encore debout, ou de voir le puits de Moïse que je recommande à tout le monde d'aller voir. Peu de gens vont le visiter malheureusement. On sort ébloui et souriant de la vision de cette œuvre d'art qui est l'image même de ce qu'a été le grand-duché de Bourgogne et dont nous avons absolument besoin aujourd'hui en France et en Europe.
Ces artistes comme Sluter qui étaient tout à fait extraordinaires. Il faut voir aussi bien sûr les tombeaux des ducs de Bourgogne au musée de Dijon.
Qui ne sont pas des tombeaux tristes, qui sont des tombeaux rayonnants de beauté et de joie et d'espérance. Je pense que l'esprit bourguignon c'est un esprit plein d'espoir en l'avenir.
Il faut dire qu'on vit bien en Bourgogne. Les escargots de Bourgogne, bien entendu, la volaille de Bresse, le jambon persillé, la moutarde, le pain d'épices, les cornichons, les œufs en meurette, et pour cause, font partie des grandes entrées de votre dictionnaire, bien sûr.
Oui,
c'est aussi un dictionnaire gastronomique.
Oui, ça fait partie de mes centres d'intérêt depuis longtemps, la gastronomie et le vin. En Bourgogne, on aime se tenir bien à table, mais partager également cette bonne chère. J'évoquais la confrérie du tas de vin, les dîners des chapitres de la confrérie du tas de vin sont des moments éblouissants ce qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire le repas gastronomique des Français. Et là, on voit là une illustration parfaite où on peut rester 5 heures à table, chanter, parler avec ses voisins, ne jamais abuser, alors qu'on boit pas mal, même au cours de ces chapitres, mais tout le monde sort en parfait état, et on a célébré quelque chose d'important.
Et l'on chante, et l'on partage, et l'on rit. Enfin, il y a une espèce de truculence dans tout ça.
Et en même temps, une élégance.
Oui,
une
élégance. Sûr, on est en smoking et en robe longue, néanmoins.
Non, mais une élégance aussi dans cette cuisine et dans ces vins. Donc, je trouve que ce mélange de joie de vivre et d'élégance qui fait partie de la littérature bourguignonne aussi, quand on lit Bussière, Abutin, Piron, quand on lit aussi, ou quand on regarde la vie de Vauban, la vie de Buffon, ou de Pontus de Thiars, voilà des gens, ou bien sûr de Colette, voilà des gens qui avaient la joie de vivre chevillée au corps. Et c'est formidable, on en a tellement besoin aujourd'hui.
Vous évoquez Colette, une de nos auditrices nous dit « J'espère que vous allez faire cette émission en roulant les airs ». C'est vrai qu'il y a cette dimension.
J'ai écrit une entrée R dans le dictionnaire, parce que c'est malheureusement de moins en moins de bourguignons prononcent le R comme il faut, mais ça, vous savez qu'on prononçait de cette manière-là à Paris aussi, au XVIIe siècle, et je trouve ça tellement beau.
Vous vous demandez dans le dictionnaire ce qui caractérise cette aimable personnalité qu'on attribue généralement aux bourguignons, et vous répondez la franchise, la truculence, la malice, une manière d'être français sans être parisien. Ça, c'est la petite pierre dans le jardin des Parisiens. L'œil plissé de celui qui ne prend rien tout à fait au sérieux, tout en donnant avec générosité le meilleur de lui-même. Un sens aussi d'appartenance. C'est quand même le pays des hauts murs, la Bourgogne, que je sache.
Oui, mais d'appartenance sans exclusion, sans exclusivité. Il y a une forte identité en Bourgogne, en particulier en Côte d'Or, et dans une partie des départements voisins, mais il n'y a pas cette idée nous en sommes, nous, mais vous n'en êtes pas. Alors qu'on trouve ça dans quelques provinces plus éloignées de Paris. La Bourgogne, il y a forte identité et en même temps sens du partage.
Accueil, oui, toujours, bien entendu.
De l'accueil. Et cette idée, vous parlez de cette malice, quand on lit Bussière, Abutin, par exemple, ou Piron, ils ont toujours le plaisir du bon mot, parfois un petit peu méchant, mais jamais totalement méchant. Et surtout une dérision vis-à-vis de soi-même, ce qui est très important aussi.
Récemment, et on en a beaucoup parlé bien entendu, les climats de Bourgogne ont été inscrits sur je ne sais plus comment la qualifier. On va dire, elle est sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, cette liste établie par l'UNESCO, qui finit par comprendre à peu près tout et n'importe quoi.
Ah non, bah, c'est pas n'importe quoi, les climats de Bourgogne.
Non, mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la liste de l'UNESCO commence à devenir tellement immense qu'on finit par plus trop s'y repérer. Bon, mais les climats, qu'est-ce que c'est que ces climats que vous définissez dans une entrée à la page 210 de votre dictionnaire?
Le mot climat, qui vient du grec klina, qui veut dire l'inclinaison, c'est-à-dire la pente, désigne les terroirs viticoles. Et donc ces terroirs, ce sont des espaces, des parcelles, mais parfois plusieurs parcelles. Au Clos de Vougeot, il y a 80 parcelles dans le Clos de Vougeot, mais qui produisent un vin qui a une identité unique, une originalité qui correspond à son sol, à son microclimat, à son hydrologie et à un savoir-faire. Et bien entendu, un encépagement. Il y a des climats à vin blanc, des climats à vin rouge. Et la Bourgogne a poussé le plus loin possible cette idée d'élaborer des vins différents d'un terroir à l'autre. C'est le micro-terroir.
J'allais dire d'un tout petit terroir à un autre tout petit terroir.
C'est ça,
la Romanée Conti ou la Vaune Romanée, qui sont les vins les plus connus du monde, un hectare 8.
et un seul propriétaire, mais vous avez des climats, de petits climats qui sont partagés entre plusieurs propriétaires. Donc les monopoles comme la Romanée Conti ou le Clos de Tarbes sont plutôt l'exception en Bourgogne. Le Montrachet, qui ne fait que quelques hectares, est partagé en une douzaine de propriétaires. Donc vous avez cette mosaïque extraordinaire avec le talent nécessaire pour faire un vin qui est un peu comme du trapézisme sans filet, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une chance. Au cours d'une année donnée, on fait le vin que l'on peut faire.
Ah, ce n'est pas l'assemblage multiple. Hein.
À Bordeaux, qui élabore des vins absolument admirables, on a sur 50 hectares d'un château la possibilité d'assembler et de prendre les meilleurs cuvées pour faire le grand vin. Puis après, on fait un second vin. Tandis qu'en Bourgogne, on fait le vin unique. C'est une œuvre d'art, un peu comme une calligraphie ou vous parliez tout à l'heure de Cluny. C'est une fresque. Il n'y a pas de repentir dans le climat de Bourgogne.
Alors quand on se promène évidemment en Bourgogne, on voit sur les panneaux routiers simplement ces noms qui sont en même temps des étiquettes de très grands vins. Hein. On passe à Meursault, etc. Meursault, attention nuance. Quels sont les grands vins de Bourgogne justement, ces grands vins de la Côte d'Or, ces grands noms.
Si je commence l'énumération et que j'en oublie, je vais me faire beaucoup. Mais si on va du nord vers le sud, ceux qui ont la plus grande réputation, c'est le Chambertin évidemment, qui a une histoire extrêmement prestigieuse. Ensuite, bon, vous avez les vins de le Musigny, vous avez les grands crus de Moret-Saint-Denis. Ensuite, vous avez bien entendu le Clos de Vougeot, puis les vins de Vaune-Romanée. Puis ensuite, plus vers le sud, Nuit-Saint-Georges, les Cortons. Puis après, Pommard, Volnay, Meursault. Donc voilà, et Beaune, bien entendu, qui est un peu moins connu. La ville de Beaune est évidemment a une réputation mondiale.
Mais les hospices plus encore.
Ces vins sont moins réputés et pourtant, il y a des vins admirables à Beaune qui sont un véritable velours.
Oui.
En blanc comme en rouge.
Les hospices de Beaune, c'est là qu'a lieu la vente annuelle. Il faut expliquer à quoi elle correspond,
Le Nicolas Rollin, qui était le chancelier duc de Bourgogne, qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent, a créé un hospice pour les malades à Beaune, donc, qui est l'Hôtel Dieu de Beaune, qui a été préservé par la Révolution précisément parce qu'il continuait à y accueillir des personnes âgées.
Hein,
c'était un hôpital. Donc il n'a pas été détruit. Et il a conservé son ordre monastique aussi, les sœurs hospitalières de Beaune, dont il y a encore quelques représentantes retraitées aujourd'hui. Et cet hôpital, comme beaucoup d'hôpitaux en France, a été doté par donation de terres, et en particulier de vignes. Et depuis des siècles, les hospices ont toujours revendu petit à petit les vignes les moins intéressantes pour ne garder que des grands crus, que de très bonnes parcelles, de très bons climats. Et aujourd'hui, donc, le domaine des hospices de Beaune produit des vins qui sont vendus chaque année aux enchères au profit de l'hôpital de Beaune. Donc c'est une très belle œuvre. Acheter du vin aux enchères, aux hospices de Beaune, est un moyen d'encourager la recherche et de faire du bien.
Ouais,
et de se faire du bien à soi, parce que ce sont des très bons vins.
Il y a des bourguignons célèbres, hein, bien entendu. Il faut peut-être en citer quelques-uns, là aussi.
Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Je ne sais pas, j'ai envie, puisque vous me posez à brûle-pourpoint cette question, de mettre en valeur un bourguignon qui aurait pu faire beaucoup plus de bien à la France qu'il n'en a fait, qu'on considère souvent uniquement sous son angle militaire, mais qui était un grand réformateur qui n'a pas été suivi, c'est Vauban.
Ah oui, bien sûr, et comment ?
Je dis même, quelque part, je crois que on a fait beaucoup de colbertisme en France, et encore aujourd'hui, dans une grande école d'administration que tout le monde connaît, on est plutôt dans l'esprit du colbertisme, on ferait bien de faire un peu de vaubanisme. Vauban voulait réformer la fiscalité. C'est ce que ce livre très célèbre, qui est la dîme royale, très célèbre, mais malheureusement que Louis XIV, qui a été séduit, mais n'a pas pu suivre parce que son entourage lui a dit que c'était dangereux de réformer la fiscalité, de faire payer l'impôt aux nobles et à l'Église. Et pourtant, la dîme royale aurait sans doute évité la révolution à la France si on l'avait appliquée.
Il y a quelques années, lors de l'année Vauban, c'était pour le tricentenaire de sa mort, nous avions fait 5 émissions d'affilée sur Vauban. C'est la seule fois que j'ai fait ça depuis que je suis à cette radio. Je pense que c'est non seulement le grand homme du XVIIe siècle, mais c'est sans doute un des plus grands hommes de l'histoire de France, tout simplement.
Je pense. Et en plus, un bâtisseur exceptionnel et un homme à la fois amoureux de la France, amoureux du roi, amoureux de l'État, serviteur de l'État, est extrêmement libre dans ses propos.
Et là, on est un peu sur les marges de la Bourgogne, on est dans le Morvan, en fait.
C'est le cœur même de la Bourgogne. Le Morvan, c'est le château d'eau de la Bourgogne, le toit du monde. Vincenot, qui a vécu pas très loin du Morvan, parlait de ce toit du monde qui est le seuil de Bourgogne. Le Morvan est une terre fascinante parce que c'est réellement un pays austère au possible et qui a porté énormément à la France, qui a nourri des générations de Français, puisque les nourrices venaient du Morvan, de bourgeois français au 19e siècle, au 18e et 19e siècle, jusqu'à Paris et dans d'autres villes, qui a chauffé Paris également, puisque le bois venait du Morvan. Donc c'est une terre admirable.
Vous avez cité Vincenot à l'instant. C'est un de nos auditeurs, Patrick, qui nous demande si Vincenot peut être considéré comme une des merveilles de Bourgogne. On va dire que c'est le patrimoine immatériel, là, en l'occurrence,
oui,
de Bourgogne.
Vincenot, c'est un homme de style. Il y a un très très beau style. Bernard Pivot, sans Bernard Pivot, je pense que Vincenot n'aurait pas tant écrit.
Vrai.
Il a été invité 7 fois à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Mais il y a des choses très très belles dans Vincenot. Il avait quelques marottes autour de ses origines gauloises. Enfin, bon. Et puis, il se passionnait un peu pour l'ésotérisme, tout ça. Bon, passera de mode, mais il reste un vrai style Vincenot, et c'est un excellent historien des chemins de fer, par ailleurs, ce qu'on a oublié quelquefois.
Et juste tout près de chez Vauban, il y a également le domaine de Buffon, par exemple, et ça nous entraînerait là encore sur un autre personnage.
Autre bourguignon admirable, absolument admirable.
Et il y en a tant d'autres. Et toujours...
N'oublions pas Marie Noël aussi, je pense, on a parlé de Colette, mais il y a un écrivain un peu oublié qui gagne vraiment à être lu, un poète, c'est Marie Noël d'Auxerre, qui a vécu dans la simplicité, l'austérité, toute seule dans sa vieille maison d'Auxerre, mais qui a écrit des pages admirables.
Je sais qu'un certain nombre de nos auditeurs, dans ces journées estivales, vont aller s'installer dans leur résidence secondaire en Bourgogne. Je pense que c'est un signe de qualité et on ne peut leur donner de meilleurs conseils que celui de se munir de votre dictionnaire amoureux de la Bourgogne, Jean-Robert Pitt, avec en couverture cette vignette qui représente les tuiles vernissées des hospices de Beaune, justement. Il faut aller voir aussi la tenture de la Vierge, d'ailleurs, à Beaune, qui est une merveille absolue.
Je recommanderais peut-être, si vous me permettez, un dernier mot, d'aller voir les œuvres de Pompon à Saumur.
Ah, extraordinaire.
Un des plus grands sculpteurs
animaliers
français.
Oui, le fameux ours blanc notamment, mais on ne connaît que ça, mais il y en a
et
tellement d'autres.
Le taureau qui est sur la place de Saulieu.
Bref, voyez que la Bourgogne est un domaine quasiment infini pour les amoureux de la vie, et comme vous nous l'avez dit, d'un certain enthousiasme et d'un certain optimisme qui ne sont pas mauvais à prendre par les temps qui courent. Merci beaucoup Jean-Robert Pitt. Merci. Je rappelle que votre dictionnaire amoureux de la Bourgogne, évidemment, est publié dans la très belle collection des éditions Plomb.
Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Lionel qui vous demande via la page Facebook de l'émission quelle est l'origine de l'expression être médusé.
Alors, on emploie cette expression de manière attestée depuis 1838, c'est relativement récent, vous voyez, mais on trouve quand même l'expression au début du XVIIe siècle et ce n'est pas un hasard car évidemment son origine est directement mythologique. Et vous savez que les poètes baroques dans les années 1600 aimaient beaucoup les métaphores mythologiques. En l'occurrence, on fait directement référence à la gorgone méduse. Qu'est-ce que c'est que les gorgones? Ce sont 3 créatures que Homère, dans son Odyssée, nous présente comme des monstres des enfers. Elles ont une apparence assez effrayante, il faut vous dire. Ces 3 sœurs malfaisantes, leur nom vient de la terreur qu'elles inspiraient, hein, puisque gorgos en grec, c'est ce qui est effarant, effrayant. Vous voyez, c'est ce qui sidère d'une certaine manière. Alors, les 3 gorgones s'appelaient Sténo, Euryale et Méduse, bien entendu. C'était la plus dangereuses méduses puisque sa chevelure était constituée de serpents. Elle était extrêmement effrayante, vous imaginez. Et évidemment, elle possédait cette particularité tout à fait redoutable qu'elle transformait en pierre quiconque la fixait dans les yeux. C'est une malédiction dont l'avait affublée une des divinités de l'Olympe. Je n'entrerai pas dans tous ces détails. Toujours est-il que ces percées, vous savez, ça fait l'objet d'énormément de traitements dans l'histoire de l'art et notamment de la sculpture, c'est Persée qui va trouver la parade en retournant son bouclier, qui est un bouclier très poli, comme un miroir contre la gorgone Méduse, et du coup elle se pétrifie elle-même. Voilà, ça c'était malin, c'est Persée qui a médusé la Méduse.